Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler leur potentiel infini. Aujourd'hui, je reçois Safia, qui est une entrepreneure de folie, qui va nous donner des tips avec laquelle on va parler de copie, on va parler d'inspiration, on va parler d'entrepreneuriat, de salariat. Donc je vous laisse avec Safia et avec l'interview. Salut Safia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, donc si tu peux commencer par te présenter pour un peu poser les choses, n'hésite pas.
Oui, et ben merci déjà pour ton invitation, ça me fait très plaisir d'intervenir dans ton podcast. Donc moi, je suis Safia, je suis entrepreneur depuis 2017. J'ai fait beaucoup de choses, on va en parler après. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, mon job consiste à aider particulièrement les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à développer une activité qui leur permette d'être indépendante financièrement et de se sentir libre, notamment grâce au support du podcast et grâce à la vente de produits numériques.
Trop chouette. Donc évidemment, on va parler de l'avant parce que j'imagine que tu n'es pas née là-dedans puisque c'était qu'en 2017. Donc qu'est-ce que tu faisais avant et quel a été ton déclic ?
Alors, j'étais juriste d'entreprise. En fait, si tu veux, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat, je ne savais pas que ça existait. Donc, j'ai fait des études parce que pression familiale, sociale. Donc, je me suis lancée dans des études de droit que j'aimais pas forcément. Mais tu vois, quand tu sors du lycée, on te parle de débouchés. C'est le mot qu'on te répète sans arrêt. Ouais. Et donc, du coup, j'étais en mode, OK, si je vais en droit, j'aurai plein de débouchés, même si c'est pas forcément mon truc. Donc, j'ai fait une fac de droit. J'ai fini aussi avec une année d'école de commerce. Je me suis lancée dans le milieu du travail, donc j'ai été juriste d'entreprise, expérience que je n'ai pas particulièrement aimée. Alors j'ai toujours travaillé, si tu veux, à côté de mes études, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai travaillé, mais en fait, le fait d'être là 100% dans le travail, en entreprise, je me suis rendu compte que c'était un truc qui ne me plaisait pas forcément, mon job ne me plaisait pas non plus, pour être honnête. C'est différent de ce que tu apprends en cours, etc. Donc voilà, ça a été une petite claque, on va dire. À côté de ça, j'avais créé un blog, donc My Trendy Lifestyle, qui était un blog lifestyle, tu vois, où je partageais un peu mes découvertes. Je parlais d'organisation, de films, de séries, c'était un fourre-tout, mais en mode hobby. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il a plutôt bien marché et qu'en fait, très rapidement, j'ai commencé à avoir des opportunités. Alors, j'ai découvert le web, du coup, ça m'a ouvert les portes de ce monde-là. J'ai découvert ce que c'était la monétisation, les collaborations, les articles sponsorisés, etc. Donc, j'ai commencé à faire ça à côté de mon job. C'était très cool. Ça a commencé à prendre un peu de place. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est cool, en fait. Et j'aime bien faire ça, tu vois. J'aime bien être sur le web, créer du contenu, créer des petites choses. C'est plutôt sympa. Et comme mon job ne me plaisait pas et que j'avais 26 ans à ce moment-là, je me suis dit, écoute, tu fais un truc qui va surprendre tes parents et tu vas quitter ton job très stable pour te lancer dans une carrière où tu seras à ton propre compte. Mais en gros, je me suis dit, si j'ai envie de tenter le truc, c'est maintenant, c'est pas quand j'aurai 40 ans. Donc, je me suis dit, j'aime pas ce que je fais. J'ai la possibilité de développer une activité autour d'un truc que je trouve mais ultra intéressant. Du coup, j'ai décidé de quitter mon job de juriste et de me lancer au début en tant que blogueuse.
Ok, donc à ce moment-là, tu avais déjà des revenus en tant que blogueuse ou c'était en mode je quitte mon CDI, YOLO et on verra?
Ah non, je suis pas du tout YOLO. Je suis pas du tout YOLO. J'avais des revenus pas non plus stables. C'était un peu les montagnes russes. J'avais des petits revenus, donc je me suis permise de tenter ma chance. Et en fait, en 2017, du coup, j'avais créé ma micro-entreprise et j'ai lancé un premier produit digital qui était un e-book qui apprenait aux blogueuses à développer leur activité avec Pinterest. Et en fait, je me suis dit, OK, vendre des produits, c'est cool. C'est un moyen supplémentaire de générer de l'argent sur le web. Et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire là-dedans, tu vois.
Mmh. OK. Donc, tu t'es lancée comme ça, mais là, c'est plus du tout ce que tu fais actuellement.
Non. C'est vrai que ça a pas mal changé. Alors, j'ai commencé en tant que blogueuse avec ce petit produit, ce petit e-book que je trouvais cool parce que je consomme beaucoup de contenu chez les Américains. Et donc, je me suis dit, OK, c'est sympa ce genre de format. À côté de ça, mon blog, lui, il évoluait bien, mon compte Insta aussi. Et j'étais plutôt axée dans une thématique voyage. Donc, j'ai eu une activité de blogueuse, entre guillemets, influenceuse voyage pendant un bon moment. Qui était très cool et que je ne regrette absolument pas parce que j'ai vécu des choses absolument incroyables. J'ai fait des voyages de fou que j'aurais pas fait sans ça, donc je suis hyper hyper reconnaissante. Et si tu veux, arrivé fin 2019, j'avais du mal à gérer à la fois la vente de mes produits de formation et mon activité de blogueuse. Et donc, je me suis dit, en gros, tu te vois faire quoi dans 5 ans ? Est-ce que tu te vois encore dépendre potentiellement des collaborations avec les marques, miser sur Instagram et tout, ou est-ce que tu veux un truc plus stable qui ne dépende que de toi ? Et donc, j'ai fait le choix d'arrêter tout ça. Donc, fin 2019, j'ai décidé de me mettre à 100% sur la thématique de l'entrepreneuriat et le fait de développer une activité. Et j'ai envie de te dire que c'était pas une mauvaise idée vu qu'on a été confinés quelques mois après. Si j'avais pas fait ça, j'aurais été un peu en galère pour mon activité de blogueuse voyage.
Non mais grave, les signes de la vie quoi, vraiment. C'était le
complètement,
moment.
Complètement, complètement. Pour le coup, ouais. Je pense que tout s'est aligné.
Ok. Et alors du coup, toi, si je vulgarise et que j'explique très mal ton job, c'est que tu vends des formations à des femmes pour qu'elles puissent faire comme toi finalement.
C'est-à-dire ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. Ce que moi j'ai appris et ce que je fais, je l'enseigne à travers alors soit des formations en ligne, soit des programmes d'accompagnement de groupe quand c'est un peu plus poussé, tu vois, un peu plus technique. Par exemple, la vente d'une formation en ligne, son lancement, son automatisation, ça va être plutôt dans un programme d'accompagnement. En revanche, okay. Ce qui est gestion de ta liste d'emails, lancement d'un podcast pour faire connaître ton business, ça, c'est des formations à suivre en autonomie.
D'accord. Donc, c'est les personnes qui vont venir à toi, ce sont des femmes qui ne sont pas encore lancées ?
Ou... Alors, si elles sont lancées, parce qu'en fait, moi, tout ce qui est base du business, si tu veux, persona, études de marché, etc., c'est pas quelque chose que j'enseigne. Ouais. Donc, moi, quand tu travailles avec moi, il faut que tu aies déjà les bases de ton business, que tu saches à qui tu t'adresses et en gros, quel problème tu résous, si tu veux, d'une manière générale.
Ouais. Ok, d'accord. Très bien. Et du coup, est-ce que tu as senti, comme je te le disais en off, est-ce que tu as senti une différence entre les femmes et les hommes dans l'entrepreneuriat ou pas, sachant qu'il y en a une énorme dans le salariat encore aujourd'hui ?
Ouais, en fait, si tu veux, la raison principale pour laquelle j'ai décidé de m'axer là-dessus, c'est qu'en fait, quand moi, j'ai voulu avoir des infos sur tout ce qui était entrepreneuriat, business du web, vente en ligne, etc., j'ai trouvé pas mal de mecs. Et dont la façon de faire, la philosophie, les valeurs ne me convenaient absolument pas. Donc, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire et que ça manquait. Et quand il réfléchit, tu vois, la plupart des PDG, ce sont des hommes. Les personnes les plus riches du monde, ce sont des hommes. Enfin, je trouve ça dommage. Et donc, je me dis que moi, axer ma communication vers les femmes, c'est parce que j'ai envie de contribuer à ça et j'ai envie de me dire que s'il y a plus de femmes qui sont indépendantes financièrement et qui vivent bien, eh ben, j'en serais mais hyper, hyper heureuse, quoi.
Ouais, c'est sûr, c'est clair. Et puis, enfin, c'est en train un peu de s'équilibrer, même si c'est pas encore la folie, hein, mais on y croit.
Ça évolue.
Mmh. Ouais, ça évolue. Est-ce que, du coup, tu garantis un certain chiffre d'affaires ou, tu vois, aux clientes ou pas ?
Comment
tu
fais ? Ah non, jamais. En fait, jamais. Mais en fait, si tu veux, je leur explique bien que moi, ce que je leur donne, ce sont des clés, des stratégies, mais que je vais pas faire le travail pour elles. Je peux pas leur garantir un résultat puisque ce qui va faire qu'elles vont obtenir un certain chiffre d'affaires, ce sont leurs actions. Donc, moi, ce que je fais, notamment dans mon programme d'accompagnement qui est le plus poussé, je travaille aussi tout ce qui est mindset, parce que c'est bien d'enseigner toute la partie stratégie, mais si dans ta tête, tu as plein de pensées limitantes, que tu n'arrives pas à vendre, que tu as une vision sur l'argent qui est assez négative, tu n'arriveras jamais à avoir des résultats. Donc, je leur donne des clés, si tu veux, des outils pour mettre en place les choses, mais il n'y a qu'une personne qui peut faire qu'elles réussissent ou qu'elles abandonnent, et c'est elle-même. Et ça, je le mets en avant, mais en très gros, si tu veux, très lumineux, en mode néon, que en gros, c'est ton job et tes actions qui vont déterminer les résultats que tu vas obtenir. Et moi, je ne travaille pas pour les gens, quoi. C'est ce que je leur dis. Je leur donne des clés, mais je ne fais pas le boulot à leur place.
Ouais, d'accord. Et du coup, est-ce que tu reviendras en arrière un jour dans le salariat ?
Jamais de la vie. Franchement, j'aime trop ma vie à l'heure actuelle, la liberté que j'ai de pouvoir décider de mon temps. J'aime aussi, tu vois, le fait de pouvoir faire travailler d'autres personnes. Je trouve que c'est trop bien. J'aime bien déléguer. C'est pas facile hein, de déléguer, mais l'un de mes objectifs sur le long terme, c'est d'avoir une équipe parce que j'ai envie de pouvoir offrir du travail à des gens qui, par exemple, n'en trouvent pas d'habitude parce qu'ils font partie d'une minorité ou qui sont pas forcément à l'aise avec la vie dans l'entreprise. Si tu veux, vu que j'ai eu une expérience qui ne m'a pas forcément plu, je sais que mon business à moi ne ressemblera pas à ce que j'ai vécu et qui sera beaucoup plus axé sur l'humain avant toute chose. Moi, mon projet, c'est bien ça, quoi.
Est-ce que au niveau... argent, tout est possible ou pas d'après toi au niveau, Par exemple, si quelqu'un nous écoute là et elle a envie de se lancer, tu dirais qu'il faut combien de temps, par exemple, pour en vivre, pour vivre de son hobby? Après, moyennant, évidemment, ça dépend des gens, ça dépend de ce que tu proposes, mais est-ce que c'est possible de, je sais pas, finir à 100K à la fin de l'année?
Et carrément, en fait, si tu veux, je pense que c'est pas une question de temps, parce qu'on on accorde beaucoup de valeur au temps, alors que c'est pas du tout ce qui détermine les résultats qu'on va obtenir. Si tu te lances là en début d'année et que tu te bouges les fesses, entre guillemets, que tu te donnes les moyens de réussir, que tu crois que tu vas y arriver, que tu crois en ton offre, que tu crois que tu as confiance en toi et en tes clients, dans le fait qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de ton expertise, tu peux faire tes 100K même dès ta première année. Tu vois, j'ai des clientes qui vivent de leur activité après quelques mois. Mais tu vois, en fait, si tu veux, tout démarre dans la tête. À partir du moment où tu as confiance en toi, en tes offres et en tes clients, tu peux tout faire et tu peux tout avoir.
Ça, c'est clair. En fait, ça dépend vraiment de ton mindset. Je pense que vraiment, peu importe ce que tu vends, en fait, ton mindset, ça fait tout, quoi. Et d'ailleurs, en fait, quand tu es entrepreneur, ton mindset, quand il est down, bah, ton entreprise, elle est limite down aussi, en fait. Parce que du coup, tu n'es plus là-dedans, quoi. Donc,
c'est sûr que si ton mindset, il est tout le temps négatif, ça va se refléter dans tes actions et donc ça va pas être ouf les résultats que tu vas obtenir. Maintenant, si tu as fait l'effort en amont de mettre en place des systèmes et des process, même quand tu as des moments down, parce que ça arrive, même quand tu as une baisse d'énergie, une baisse de motivation, bah, ton entreprise, elle va pas non plus en pâtir parce que tu as un système qui tient la route, tu vois.
Ouais, clairement. Et parlons un peu d'entrepreneuriat au sens propre du terme et au sens global. Tu vois, en ce moment, surtout sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde y est vu que c'est le confinement, tout le monde a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est trop bien. Comme tu dis, tu as la liberté de travailler quand tu veux, etc. Mais est-ce que tu peux aussi nous parler des côtés un peu plus challenging, voire tout ce qu'on ne met pas sur les réseaux sociaux, qui est aussi prenant et pas forcément positif dans l'entrepreneuriat?
Ouais, en fait, on a cette idéalisation de l'entrepreneuriat et je pense personnellement que tout le monde peut le faire, mais que ça va pas être adapté à toutes les personnalités. Pour le coup, c'est dur, tu vois. C'est dur d'avoir une entreprise, en tout cas au début, qui repose essentiellement sur tes épaules et qui dépend de ta tête, de ta confiance, de tes croyances, etc. C'est pas facile. T'as des jours où t'as envie de tout abandonner parce que t'obtiens pas les résultats que t'avais en tête. Enfin, je trouve que c'est une énorme pression, l'entrepreneuriat, malgré tout. Surtout au début, mais c'est à ce moment-là qu'il faut pas lâcher pour autant, et ça fait partie de l'aventure. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est pas parce que tu vois des gens gagner 10 000, 20 000, 100 000 euros par mois que tu vas pouvoir le faire en 6 mois. C'est juste que ces gens-là, ils te partagent leur réussite, mais t'as pas tout ce qui se passe en backstage, le fait qu'ils ont rencontré tel ou tel échec, que parfois ils ont des crises d'angoisse ou des crises de panique, parce que c'est beaucoup de pression, tu vois. Faut pas l'oublier.
C'est beaucoup de pression et c'est beaucoup, surtout comme tu dis au début, quand tu n'es pas sûr d'avoir tes factures payées à la fin du mois. Et puis, il y a aussi un truc qui est vraiment important, c'est que ceux que tu vois fleurir là, qui parlent de faire 100 000, 10 000, millions, machin, tu sais pas déjà depuis combien de temps ils sont dans leur truc, depuis combien de temps ils le travaillent. Tu sais pas non plus combien il y a de personnes derrière, parce qu'il y a des personnes qui ont des équipes carrément.
Ouais, c'est clair.
C'est beaucoup plus facile de faire un truc hyper quali que, tu vois, quand t'es 25, que quand t'es tout seul concrètement.
Et je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est ça qui, en fait, au début, il faut vraiment juste se concentrer sur soi et faire ce qui nous semble, tu vois, ce qui nous semble juste. Comprendre qu'il n'y a pas de gratification instantanée dans l'entrepreneuriat, tu vois. Tu vas travailler beaucoup et tu verras peut-être pas les résultats tout de suite, mais sur le long terme, ça va forcément aider. Parce qu'on a toujours l'impression de se dire « Oui, mais je poste X fois sur Instagram, je fais des stories et pourtant, j'ai que 50 abonnés. » Enfin, je sais pas, je te mets dans une salle avec 50 personnes, je sais pas toi, mais moi, je bégaye, tu vois. C'est beaucoup, en fait. Mais on est tellement habitué à voir des grands chiffres partout qu'on a tendance à diminuer ce qu'on a déjà là devant nous. Et on est tout le temps dans la quête de l'après. Il me faut plus d'abonnés, il me faut plus de chiffres. Mais en fait, juste arrête-toi et apprécie ce que t'as déjà. Parce que si tu te compares à la personne que t'étais ne serait-ce qu'il y a 3 mois, tu te rends compte de l'évolution et de toutes les choses que t'as pu mettre en place.
C'est clair, surtout que le nombre d'abonnés, alors déjà, bon, franchement, c'est un peu, ça veut un peu rien dire. C'est pas parce que t'as 100 000 abonnés, si personne n'achète tes produits, t'es juste 100 000 abonnés. Hein.
Ouais.
Et puis, enfin, même les marques, elles regardent l'engagement, un truc comme ça. Donc, en vrai, enfin, le nombre d'abonnés, pour moi, ça ne signifie rien. Et comment tu gères la concurrence, du coup? Parce que on va pas se mentir, il y a de la concurrence.
Ouais, en fait, je t'avoue que je le vois pas vraiment comme de la concu, parce que j'ai plein de collègues, entre guillemets, moi je les appelle des collègues, qui sont dans l'entrepreneuriat aussi, qui ont des offres qui ressemblent aux miennes, ou tu vois. Mais en fait, je pense que c'est pas un problème parce qu'il y a personne qui est comme moi, tu vois. Il y a personne qui a ma personnalité, qui a ma façon d'enseigner, ma façon d'être. Et même s'il y a, je sais pas, 10 formations sur le podcast, il y a des gens qui vont vouloir travailler avec moi parce que c'est ma façon de faire et que ça leur plaît, comme il y en a d'autres à qui je vais pas correspondre du tout. Mais je pense qu'il y a une audience pour tout le monde et que la notion de concurrence, pour moi, elle devrait pas être là pour mettre la pression. Et au contraire, c'est la possibilité de nouer des relations, d'avoir un excellent réseau, tu vois, de pouvoir brainstormer, réfléchir ensemble, demander des conseils. Enfin, moi, je pars du principe que les personnes les plus à même à me conseiller, ce sont mes concurrentes, entre guillemets, tu vois, mes collègues qui sont dans le même domaine que moi.
Ouais, mais après, il faut qu'elles aient le même mindset aussi, tu vois, parce que tu as des gens qui ne sont pas dans ce mindset-là. D'ailleurs, tout le monde devrait penser comme toi, hein, mais si jamais tu as en face des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, tu vois, c'est un peu dommage aussi, je trouve.
Ouais, après, tu fais le tri et tu fais le choix quand même de tourner vers des personnes avec... Enfin, tu vois, c'est un donnant-donnant, si tu veux. Si tu vois que la personne, elle n'est pas réceptive, ça ne sert à rien de forcer et tu vas voir ailleurs. Il y aura toujours des gens qui seront ouverts au fait d'avoir des business friends, comme on dit.
Mmh, clairement. Et dernière petite question rapide. Enfin, non, il y en aura deux, en fait. Mais avant-dernière question. Comment tu gères la copie? Tu as déjà été copiée? J'imagine que oui.
Ouais, alors... Au début, ça me mettait hyper en colère. Pour le coup, vraiment, oui, j'étais trop vénère. Donc, j'envoyais un message à la personne et je lui expliquais qu'elle n'avait pas le droit. Bien sûr, j'étais comme ça, moi. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, bah, c'est bon, maintenant, alors ça me fait chier, je ne vais pas te mentir, mais j'ai plus de recul parce que je sais que même si cette personne me copie, en soi, elle n'a pas mon expertise et mes connaissances. Donc, ok, elle va copier sur la forme, si tu veux, mais dans le fond, quand on va vouloir aller plus loin avec elle, lui poser des questions, approfondir, etc., elle ne sera pas en mesure de pouvoir répondre et de réellement aider, alors que moi, oui. Et je pars du principe que les gens... j'ai une audience qui est plutôt engagée, donc je me dis que les gens connaissent mon travail et ils sauront que, tu vois, s'il y a copie ou autre, que la version... La vraie version, en vrai...
La VO, c'est toi.
Ouais, voilà. C'est ce que je me dis, tu vois. Oui, je me dis que les gens font... Ouais.
Ouais, et puis moi, je me dis aussi que, tu vois, les gens qui te copient, bah, ils sont, entre guillemets, derrière, sur le chemin, tu vois. Ouais. Parce que si tu fais quelque chose qui a déjà été fait, bah, t'es pas dans le troupeau de tête, on va dire. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de danger, je pense, là-dedans. Mais moi aussi, ça me rendait dingue. Au début, j'étais là, mais putain, mais elle se fout de ma gueule. En plus, c'était des personnes, genre vraiment des personnes hyper connues, tu vois, au début, que moi, j'avais eu la chance de rencontrer, tu vois, ça me rendait dingue. Bon, mais finalement, comme tu dis, au final, toute vérité finit par se savoir.
Mais oui, et puis, honnêtement, on peut te copier autant que tu veux, hein, on n'aura pas ton expertise, pour le coup. Je sais pas si tu connais Dorian Baker, qui est spécialiste en customer care. Pour le coup, il y a une personne qui copie vraiment son contenu. Mais en fait, elle n'a pas les connaissances de Dorian, tu vois. Dorian, elle est vraiment experte dans son domaine. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous copie, elles ne sont pas à notre place. Donc, sur le long terme, ça ne va jamais marcher. Tu ne peux pas bâtir un business en copiant les autres, tu vois.
Non, c'est clair. Ça, c'est sûr. Et du coup, je t'ai menti parce que je t'ai dit qu'il n'y avait plus de questions, mais il y en a encore deux. qui sont tes inspirations? Est-ce que tu as des comptes Insta ou des sites ou des trucs que tu lis et que tu... des personnes qui t'inspirent et, je ne sais pas, tes mentors, des choses comme ça?
Alors... Ma coach Claudia Natella, pour le coup, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup sa vision. Elle m'a pas mal aidée sur tout ce qui était mindset, parce que moi j'étais beaucoup stratégie avant. J'étais beaucoup dans le faire et dans le avoir. Tu vois, il faut que je fasse telle chose, il faut que j'aie tant de chiffres d'affaires, tant de ventes, tant de clients. J'étais trop là-dedans. Et en fait, elle m'a appris à ralentir, si tu veux, à juste être dans le être moi et vivre le truc dans le présent, apprécier. Donc Claudia, elle est géniale pour ça. Sinon, deux personnes dont j'aime beaucoup, beaucoup le travail, Amy Porterfield, qui est très connue, voilà, et Pat Flynn aussi, que je suis depuis le tout début. Pat Flynn, pour moi, c'est le goal, tu vois. J'adore son travail, j'adore sa façon d'enseigner, son contenu. Donc voilà, les trois personnes qui m'inspirent.
D'accord. Ok, et si tu devais donner, dernière question pour de vrai, si tu devais donner un conseil à une personne qui, tu vois, à une personne qui n'ose pas parce qu'elle est en CDI, que c'est archi confortable, mais qu'en même temps, son job, ça ne la fait pas rêver puisqu'elle travaille par exemple chez Monsanto, tu vois, elle a envie de donner un sens à sa vie, quel conseil tu donnerais?
Je pense que je lui donnerais comme conseil de commencer à mettre un pied dans l'entrepreneuriat tout en restant dans le confort de son salariat au début, juste pour tenter le truc. Donc, réfléchir à une idée de business, tu vois, faire une petite étude de marché, voir quels sont les problèmes des gens qu'elle pourrait solutionner éventuellement, et ensuite trouver du temps pour s'investir là-dedans. Tu sais, c'est pas impossible d'être salarié et d'avoir une activité entrepreneuriale à côté. Moi, j'ai une des membres de mon programme d'accompagnement avec qui je travaille depuis août, qui au début était salariée et qui gérait son activité activité à côté. Alors bien sûr, ça demande du temps, tu vois, tu fais des concessions. Mais pour le coup, ça lui a permis à la fin de l'année de quitter son job salarié et d'être totalement à son compte. Donc tu vois, c'est un pari, c'est quelque chose qui va être fatigant, qui va demander de l'énergie au début, mais qui, je pense, est bien pour se lancer tout en restant dans le « au cas où ça marche pas, je garde mon CDI ou mon CDD », tu vois.
Ouais, c'est clair. Mais enfin, quoi qu'il arrive, moi je pense qu'il faut vraiment assurer ses arrières niveau financier,
ouais,
pour pas être en panique et ouais, pas faire n'importe quoi.
Totalement, je suis d'accord avec toi.
Ok, trop bien, trop cool. Franchement, je suis trop contente qu'on ait trouvé un créneau. Donc, je suis vraiment contente pour ce podcast. Merci beaucoup de toutes ces infos, conseils, etc. Et puis, je mettrai toutes tes infos en dessous.
Ça marche, merci beaucoup.
Je suis sûre qu'il y aura plein de femmes incroyables qui vont avoir envie de travailler avec toi maintenant.
Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ce petit moment.
Et à bientôt, alors.
Salut.